Chapitre 3. Un jour. On avait brûlé deux fagots, les chiens avaient mangé leur soupe comme à l'ordinaire, la mère et la fille avaient trempé en morceaux de pain dans du lait froid. Pour chauffer un peu le sien, Zina s'était grillé les doigts à tenir sa tasse au-dessus de la petite lampe qui, maintenant, brûlait tout le jour. Quoique le poêle fût refroidi depuis la veille, la grande chambre bien fermée conservait quelque chaleur. Les deux femmes se couchèrent à 6 heures pour épargner le pétrole, mais elles parlèrent longtemps, blotties sur leur couverture, se tenant la main, comme on le fait instinctivement dans une commune inquiétude. Chacune avait un espoir qu'elle s'efforçait de faire partager à l'autre. Épiphanie était sûre que le gel, cette nuit même, durcirait la neige et permettrait de reprendre le creusage du tunnel, sans crainte d'un nouvel éboulement. « Mais ce sera long, disait Zina. Et puis, la pelle est là-dessous. Il faudrait la ravoir d'abord. Moi, je crois que les voisins viendront à notre secours. »« Les voisins ? Ah bien oui, si on compte sur eux. Nous sommes ici dans une combe où personne ne passe. C'est retiré, c'est solitaire. Même en été, quel monde y voit-on ? Les voisins sont à une demi-heure d'ici et il ne leur vient pas à l'idée de se demander si nous sommes mortes ou vivantes. » Néanmoins, Zina était assurée que le secours ne manquerait pas d'arriver le lendemain. Cette espérance lui tenait chaud au cœur et lui permit de s'endormir. Un jour encore. Le dernier fagot flamba. Chaque branche, jetée parcimonieusement sur la flamme, pétilla, se tordit et trop vite, beaucoup trop vite, s'abattit en un long tison rouge, puis en un petit agris de cendres parsemé d'inutiles étincelles. Quand la dernière ramille s'éteignit, les deux femmes se regardèrent, le cœur serré, sans rien dire. Les chiens ne firent qu'un repas de tout le jour. Dans l'après-midi, ils commencèrent à geindre. Ils erraient par la cuisine, gelés, lamentables, puis ils allaient gratter à la porte de la chambre, se coucher sur le seuil, poussant d'une longue plainte. Zina essayait de tricoter, de ses doigts enraidis et bleus. Elle prêtait l'oreille tout le temps. Quand donc entendrait-on des voix, des cris d'appel derrière ce mur glacé ? Bien sûr, ils arriveraient avant le soir, avec des traîneaux et des pelles, ils étaient déjà en route peut-être. Le temps se remettait. Autour de la cheminée, le vent soufflait bien encore, mais il ne neigeait plus. Épiphanie, elle, n'avait d'espoir qu'en la gelée. Même si les voisins joblent de venir nous déterrer, ils ne peuvent le faire que si la neige porte. Comment veux-tu qu'ils entrent avec des traîneaux, dans des menées toutes fraîches, hautes jusqu'au toit ? L'heure de traire arriva. « C'est trop tard pour aujourd'hui, » pensa Zina. « Ils viendront demain matin. » Elle suivit sa mère à l'étable. « Mais il fait bon ici !» s'écria-t-elle avec une joyeuse surprise, sentant une tiédeur délicieuse l'envelopper. Elle appuya ses deux mains sur le flanc chaud de la grosse vache blanche, puis son épaule, puis sa joue. « Ah bien, si j'y avais pensé plus tôt !» disait-elle. « Tiens, ici, dans son cou, c'est encore plus chaud. Ça me dégèle les doigts !» Cette étable était un méchant petit coin bas, étroit, obscur, mais bien capitonné de paille et de toile d'araignée. À côté de la crèche, il y avait une auge où l'on pouvait se blottir, les pieds enfouis dans la litière, et l'on sentait passer sur ses mains une haleine chaude quand la vache songeuse tournait la tête pour vous regarder de ses grands yeux doux aux cils blonds. La mère et la fille s'assirent là pour boire leur tasse de lait, encore tiède, une seule tasse, car Épiphanie mit le reste en réserve pour le déjeuner des chiens. « Mais Diavolo n'en voudra pas, » dit-elle, secouant la tête. « Il n'a pas un caractère à boire du lait. Avait-il l'air assez mauvais tout à l'heure, quand il rôdait autour de moi ?» Un troisième jour passa, ou plutôt une troisième fois 24 heures, de cette longue nuit. Zina, quand elle voulut se lever le matin, sentit la tête lui tourner. « Tu as faim !» dit sa mère, qui l'obligea à avaler coup sur coup 2 grands bols de lait. « Si quelqu'un doit s'affautir, pensa-t-elle, ce sera moi d'abord et puis les chiens. La petite n'a pas de forces à perdre. » En raison de quoi, Épiphanie versa sa portion dans la grande écuelle où les chiens vinrent lentement, d'un air misérable, laper un maigre fricot de farine délayée dans du lait coupé d'eau froide. Diavolo s'en approcha, flaira ses liquides troubles et retourna dans son coin. Il n'y avait plus dans la huche que 2 ou 3 poignées de farine et un morceau de pain gros comme la ration d'un soldat. Épiphanie prit ce morceau, le soupesa sur la paume de sa main. « La petite dit que, pour sûr, on viendra à notre secours aujourd'hui. C'est comme un pressentiment qu'elle a. Je n'aime pas à voir cette belle bête se périr de faim sur sa paille quand une bouchée de pain lui rendrait courage. » Sans bruit, en cachette, pendant que les autres chiens avaient le museau dans leur écuelle, elle se glissa près du Danois qui, morose, gronda sourdement quand elle essaya de le flatter sur le cou. Il happa le pain qu'elle lui tendait par bouchée, puis, quand elle retira sa main, il se dressa, montrant les dents. « Ah, c'est ainsi, méchante bête ingrate !» s'écria Épiphanie. Son fouet pendait là, tout près, à un clou. Elle le saisit, le fit siffler au-dessus du chien qui se recoucha, mais gronda encore longtemps, enfoui dans sa paille. Ce fut une longue journée. Zina la passa à l'étable, où, si l'on avait faim, l'on n'avait du moins pas trop froid, où l'on pouvait dormir et entendre en rêve des traîneaux qui s'approchaient. Sa mère lui avait apporté Mouton, le gros toutou frisé, en guise de chancelière. Mais c'était une chancelière qui jappait douloureusement et qui vous regardait avec des yeux à fendre l'âme. « J'ai aussi faim que toi, Mouton !» disait Zina, lui prenant la tête entre ses deux mains. « Je pleurerai bien, vois-tu, il faut avoir patience !» Épiphanie travaillait à son tunnel, décourageante besogne, car la neige avait gelé, elle était maintenant dure, compacte et rêche comme du sel, tout d'un bloc, pleine de cristaux aigus. En s'y opiniâtrant pendant plus d'une heure, en s'y mettant les mains en sang, Épiphanie parvint à dégager sa pelle, incrustée dans le fond de la niche, sous l'éboulement. Et qu'était-ce que cela? Pour arriver au chartiste, il faudrait travailler des heures et des jours. Son accident de l'avant-veille l'avait effrayée, toute courageuse qu'elle fût. Elle n'aimait pas à s'en souvenir. Ce bruit mat, cette obscurité soudaine, ce poids invisible qui étouffe et paralyse, cette lutte pour remuer un bras, pour crier, comme dans un cauchemar, tout cela pouvait se passer une fois encore et finir plus mal. « Mère, brûlons de la paille !» dit Zina d'un ton suppliant, comme l'interminable après-midi, dans la petite clarté morne de la lampe, s'allongeait désespérément. « Tâchons de cuire des pommes de terre pour nous et pour les chiens. » Épiphanie haussa les épaules, prit dans le coin de l'étable une brassée de paille qu'elle alla jeter sur le foyer, puis elle suspendit la marmite à la crémaillère. Ce fut un lamentable insuccès. La paille, pénétrée de la moiteur de l'étable, brûlait mal, fumait, et les petites flammes jaunes qui en jaillissaient par intervalles, si elles étaient gaies à voir, jetaient une piètre chaleur. Cependant, les chiens s'étaient rassemblés autour du foyer et, dans des attitudes d'anxieuse attente, une patte en l'air, remuant la queue, ils regardaient cette marmite avec des yeux affamés. Zina, agenouillée, soufflait de toutes ses forces sur les étincelles. Une seconde brassée de paille brûlota péniblement. L'eau de la marmite ne commençait pas même à frissonner. « C'est inutile, » dit Épiphanie, « il en faudrait des charretées et encore. »« Le foin serait plus sec ?»« Tu es folle, » cria sa mère, « ne vois-tu pas que ceci peut durer des jours et des jours, et que si le lait venait à nous manquer, nous n'aurions plus de ressources ?» Zina regardait autour d'elle, cherchant une vieille planche, un bâton, quelque chose à jeter sur ce feu qui s'éteignait. « Brûle le balai, va !» dit sa mère. Le balai brûla, puis une vieille corbeille trouée, puis un escabeau d'écurie. Des flammes, de vraies flammes cette fois, montaient joyeusement, léchant la marmite entourée d'un nimbe de vapeur qui s'échappait du couvercle. Mais, après l'escabeau, il n'y avait plus rien. « Une chaise, nous en avons 6 !» fit Zina timidement. « Une chaise, une bonne chaise en noyer !» Pourquoi pas la commode et le lit? Ça ira mal avant que je commence à brûler mon mobilier. Jette de la paille, sur ce brasier, elle flambera. Les pommes de terre n'étaient cuites qu'à moitié quand on les retira de la marmite. Épiphanie les coupa en petits morceaux, les écrasa, en fit une pâtée pour les chiens qui se jetèrent dessus avidement. puis les deux femmes s'assirent sur le foyer afin de ne pas perdre une parcelle de cette chaleur qui flottait encore autour des cendres frissonnantes. Zina, la tête inclinée sur ses genoux, tenant entre les paumes de ses petites mains glacées une pomme de terre tiède qui les réchauffait un peu, finit par s'endormir. Elle soupirait et parlait dans son sommeil, et, une fois, elle poussa comme un sanglot.